VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 27 février 2020. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
L'ambassadeur du Mali en France dénonce les problèmes posés par la Légion étrangère dans son pays en évoquant des débordements à Bamako.
Au Togo, recours de l'opposant Agbeyome Kodjo devant la Cour constitutionnelle pour contester la victoire du président sortant Faure Gnassingbé.
En Guinée-Bissau, où l'issue de la présidentielle reste contestée, l'un des candidats, Oumarou Sissoko Embalo, invite à son investiture ce jeudi.
En Tunisie, le gouvernement d'Elias Farfar a été entériné hier par le Parlement.
Coronavirus en République démocratique du Congo, un collectif de parents d'étudiants demande leur rapatriement de Chine.
Et ici à Washington, le président américain Donald Trump s'est voulu rassurant quant à l'épidémie, disant que le risque restait très faible dans ce pays.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
L'ambassadeur du Mali en France a accusé hier les soldats de la Légion étrangère participant à l'opération Barkhane de débordements qui posent problème à Bamako. Cette affirmation a été aussitôt rejetée par l'état-major français qui assure que les légionnaires n'ont jamais été stationnés dans la capitale malienne. Bagassi Koura.
Les légionnaires n'ont jamais été stationnés à Bamako, ils n'ont pas vocation à y aller, ils n'ont ni quartier libre, ni temps de repos. Hors des bases opérationnelles de Barkhane, situées dans le nord du Mali, a réagi le porte-parole de l'état-major français, le colonel Frédéric Barbry. Plus tôt hier, l'ambassadeur du Mali en France, Toumani Djimé Diallo, avait dénoncé devant la commission défense du Sénat français les problèmes posés par la Légion sur le sol malien en évoquant des débordements à Bamako. Il n'y a pas de sentiment anti-français au Mali, a dit le diplomate malien. Il y a eu à un moment donné un ressenti au sein de la population contre la présence militaire française, a-t-il déclaré lors d'une audition parlementaire des ambassadeurs des pays du G5 Sahel. D'abord, avec tant d'hommes et de moyens, on s'attendait à plus de résultats, moins coûteux en vie humaine, a-t-il souligné. Le président de la commission du Sénat français, Christian Cambon, lui a rétorqué « Nous prenons note, mais souhaitons réaffirmer notre solidarité envers nos forces armées. »
Au Togo, l'opposant Agbeyome Kodjo, arrivé en seconde position à la présidentielle, a annoncé hier avoir déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Il dénonce de faux résultats et une mascarade électorale. Le président sortant, Faure Gnassingbé, a été proclamé vainqueur du scrutin. Abdourahmane Dia.
L'opposant affirme avoir déposé mardi soir un recours devant la Cour constitutionnelle et dit attendre que la Cour récuse les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Cet ancien premier ministre a obtenu 18,37% des voix contre 72,36% pour le président sortant selon les résultats préliminaires. Le candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement s'est autoproclamé président quelques heures avant la proclamation des résultats de la CENI, dénonçant de graves irrégularités. Depuis, il a appelé plusieurs fois les Togolais à se mobiliser pour manifester leur désapprobation face à ce qu'il appelle une mascarade électorale et à défendre leur suffrage. Mais son appel n'a pas eu d'écho et les Togolais ont continué à vaquer à leurs occupations. Les observateurs de la CDAO ont exhorté les candidats à respecter les résultats proclamés par les institutions et à recourir si besoin aux voies légales.
En Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Embalo, l'un des deux candidats au second tour de la présidentielle du 29 décembre, a déclaré hier son intention de se faire investir ce jeudi au poste de chef de l'État, malgré l'imbroglio persistant sur l'issue du scrutin. Monsieur Embalo, issu de l'opposition, a été donné vainqueur par la commission électorale avec 53,55% des voix. Mais son rival, Domingos Simões Pereira, continue de contester sa victoire. Monsieur Pereira appartient au PAIG, qui domine la vie politique du pays depuis son indépendance en 1974. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
En Mauritanie, 7 membres présumés d'un mouvement prônant une réforme de cette république islamique conservatrice ont été inculpés hier d'atteinte à l'islam et de terrorisme par la justice. En revanche, cette dernière a mis fin aux poursuites intentées contre deux célèbres féministes, Aminatou Mint El-Mokhtar et Mekfula Mint Ibrahim, dont Amnesty International avait demandé la libération. Les 7 inculpés, dont 6 ont été placés en détention et un remis en liberté sous contrôle judiciaire, sont accusés d'appartenir à l'Alliance pour la refondation de l'État mauritanien, un mouvement créé en début d'année à Paris selon leur avocat Sid Ahmed Oud Bobali.
En Tunisie, le gouvernement d'Elias Fakhfakh a obtenu, sans surprise, la confiance du Parlement, un cabinet formé après 4 mois d'intenses négociations et qui doit se pencher sur de lourds dossiers socio-économiques en suspens. Le vote, 129 voix pour, 77 contre et une seule abstention sur un total de 207 députés présents. L'ancien ministre des Finances et son équipe prêteront serment lors d'une cérémonie ce jeudi au palais présidentiel de Carthage. Monsieur Fakhfakh, 47 ans, est le 8e premier ministre du pays depuis la révolution de 2011 qui a chassé du pouvoir le président Zine El Abidine Ben Ali.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Coronavirus en République démocratique du Congo. Un collectif de parents d'étudiants demande au gouvernement du président Félix Tshisekedi de rapatrier leurs enfants qui se trouvent en Chine pour les épargner du coronavirus. Les détails avec Eddie Isango.
Les parents des 140 étudiants congolais concernés demandent à leur gouvernement d'intervenir auprès des autorités chinoises pour faciliter la couverture médicale en vue du rapatriement de leurs enfants. Selon Jao Wolo Luleke, porte-parole du collectif, dont les fils de 23 ans étudient en Chine, les parents sont prêts à supporter eux-mêmes les frais de transport. Leur crainte est que leurs enfants sont mis en quarantaine, achètent tout en ligne et risquent bientôt d'être à court d'argent. Aucun cas de contamination n'a été enregistré parmi les étudiants congolais. Des gouvernements appellent les parents au calme. Des mesures nécessaires sont en train d'être étudiées selon les porte-parole du gouvernement, David Jolino Diouampovesa Makelele. La RDC avait début février appelé ses ressortissants à s'abstenir de se rendre en Chine, un de ses principaux partenaires commerciaux. Des contrôles sanitaires ont été mis en place à l'arrivée des vols internationaux à Kinshasa. Le pays fait face déjà depuis août 2018 à une épidémie d'Ebola dans l'Est qui a fait plus de 2260 morts.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a assuré hier à la population que le risque lié à l'épidémie de coronavirus restait très faible dans le pays. Et il a chargé le vice-président Mike Pence des opérations américaines de lutte contre cette crise sanitaire mondiale. Le point avec Jean-Roger Bion.
S'exprimant lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche aux côtés du groupe de travail sur le coronavirus, le président américain a déclaré que les autorités sanitaires du pays se préparaient à faire tout le nécessaire pour contenir cette épidémie. Il a indiqué qu'il accepterait le montant du budget spécifique alloué par le Congrès pour lutter contre le coronavirus, quel que soit ce montant, et que Washington n'envisageait pas dans l'immédiat de restrictions de voyage vers ou en provenance de pays comme la Corée du Sud ou l'Italie qui font face à une flambée des cas de contamination. Il est probable, possible que l'épidémie se propage. Cela pourrait être à un niveau très faible ou à un niveau plus large. Peu importe ce qui se produit, nous sommes totalement préparés, a déclaré le président américain. Des représentants des autorités sanitaires américaines ont prévenu mercredi qu'il fallait se préparer à la confirmation de cas supplémentaires, tandis que la ville de New York a dit procéder à des dépistages et être prête à fournir jusqu'à 1200 lits d'hôpitaux si nécessaire. Aucun cas n'a été signalé pour l'heure dans l'État de New York. Le secrétaire au service sanitaire et humanitaire Alex Azar a déclaré que 59 cas de contamination ont été confirmés aux États-Unis, parmi lesquels 42 ressortissants rapatriés du navire de croisière Diamond Princess, placé en quarantaine dans le port japonais de Yokohama.
A signaler enfin que l'Arabie Saoudite a suspendu temporairement l'entrée sur son territoire des pèlerins se rendant à la Mecque pour la Oumra dans le but de prévenir l'arrivée de l'épidémie. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Le Fonds monétaire international indique avoir obtenu des promesses de financement suffisantes pour lui permettre d'accorder un allègement complet de la dette de la Somalie. Plus de 100 pays membres du FMI se sont engagés à fournir plus de 334 millions de dollars en financement. Une fois que tous les engagements auront été officialisés, un processus suivra afin d'apurer les arriérés envers le fonds, affirme le FMI. Dans son projet de budget de la prochaine année fiscale, l'Afrique du Sud a réduit réduit ses dépenses publiques de 15,8 milliards d'euros. Le ministre des Finances a toutefois indiqué que l'État continuera à secourir les entreprises publiques en grande difficulté. Il versera 3,6 milliards d'euros à South African Airways et à la société publique d'électricité Eskom pour stabiliser la production d'énergie. Les analystes estiment que ce budget va causer des tensions avec les syndicats, mais qu'il est nécessaire pour restaurer la stabilité fiscale. Pour terminer, l'Algérie s'est dotée d'une stratégie nationale de transition énergétique visant à doter le pays de 16 000 MW de centrales d'énergie renouvelable d'ici 2035. Selon l'agence Ecofin, cela permettra au pays de s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures, d'aller vers les énergies renouvelables, d'économiser d'ici 15 ans l'utilisation de près de 240 milliards de mètres cubes de gaz naturel et de faire émerger des petites et moyennes entreprises spécialisées dans la fabrication d'équipements pour ce type d'infrastructure.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cyclisme coup double hier pour Nathanael Tesfasione autour du Rwanda.
Oui, l'Érythréen a remporté la quatrième étape la plus longue courue entre Rusizi et Rubavu, 206 km. Nathanael Tesfasione a avalé la distance en 5h34 minutes 46 secondes. Il a devancé le Sud-Africain Kent Main et le Rwandais Moïse Mugisha. Au classement général, Tesfasione ravit le maillot jaune à Binyam Aïlou et possède une bonne avance de 2 minutes 11 secondes sur son poursuivant immédiat, Moïse Mugisha. Le Chilien Carlos Uyarzun est leader au classement des grimpeurs. L'Érythréen Dewit Yemane est à la tête des meilleurs sprinteurs. Aujourd'hui, la cinquième étape amènera le peloton de Rubavu à Moussanze, 84,7 km.
16e de finale, retour en Ligue Europa ce soir.
Oui, les Néerlandais de l'Ajax Amsterdam vont devoir marquer au moins 3 buts à domicile contre Retafe pour renverser le score de l'acte 1-2-0 en Espagne. Wolverhampton y est presque. Après sa leçon donnée à l'Espagnol Barcelone à l'aller 4-0, Manchester United reçoit Bruges après le match nul de 1-1 à l'aller. Arsenal lui reçoit l'Olympiakos. Le Bayer Leverkusen du Burkinabé Edmond Tapsoba se rend à Porto avec un but d'avance 2-1 à l'aller. Tout comme Wolfsburg chez les Suédois de Malmö 2-1 également. Quant à l'Inter de Milan et à l'AS Rome, leur victoire respective à l'aller 2-0 chez les Bulgares de Ludogorets, 1-0 contre les Belges de la Gantoise, leur font croire au 8e. Pour les interistes, la qualification devra se valider à huis clos, une décision prise par les autorités face à l'épidémie du nouveau coronavirus.
Steph Curry retrouve les parquets le week-end prochain.
La star des Golden State Warriors va effectuer son retour en championnat NBA dimanche contre les Washington Wizards. Après 4 mois d'absence pour blessure, Stephen Curry s'est blessé contre Phoenix lors du 4e match de la saison régulière le 30 octobre dernier, victime d'une fracture de la main. Il s'est entraîné pour la première fois avec ses coéquipiers le 22 février. Les Warriors, sacrés champions NBA en 2015, 2017 et 2018, affichent le pire bilan du championnat cette saison avec seulement 12 victoires en 56 matchs. En plus de Curry blessé, ils ont perdu Kevin Durant qui a rejoint Brooklyn à l'intersaison, de même que Klay Thompson qui ne jouera pas cette saison à cause d'une blessure à un genou.
NBA toujours, Joel Embiid a été mis à l'amende.
Oui, la star camerounaise des Philadelphia Sixers a été condamnée à une amende de 25 000 $ par la NBA. La Ligue lui reproche d'avoir adressé un doigt d'honneur à un joueur d'Atlanta lundi et prononcé l'injure correspondant à ce geste en interview télévisée d'après-match. L'amende infligée à Joel Embiid est plus élevée que la normale pour ce type d'infraction, la Ligue estimant qu'il n'en était pas à ses premières frasques sur un parquet. Le pivot camerounais, qui compile 23,8 points et 12 rebonds par match, préside aux destinées des Sixers, actuellement 5e à l'Est et qui présente le meilleur bilan à domicile de la Ligue cette saison avec 27 victoires pour seulement 2 défaites. On reste en NBA avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Eh bien, surprise, Cleveland a battu les Sixers de Joel Embiid 108 à 94 et les Clippers et Phoenix 102 à 92, Dallas et San Antonio 109 à 103, Houston et Memphis, eh bien, le match s'est terminé par le score de 140 à 112, Minnesota et Miami 129 à 126, entre Orlando et Atlanta, le score a été de 130 à 120, Washington et Brooklyn, eh bien, Washington a gagné 110 à 106, Charlotte et New York 107 à 101.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La confusion persiste en Guinée-Bissau, 2 mois après le second tour de la présidentielle du 29 décembre dernier. L'un des deux candidats, Oumarou Sissoko Embalo, sera bel et bien investi aujourd'hui à Bissau. Il s'est fondé sur une décision prise en sa faveur par la commission électorale. Idriss Fall a joint d'abord Khalifa Suarez Gassama, directeur de campagne du candidat Oumarou Sissoko Embalo à Bissau.
Ce sera la cérémonie d'inauguration du président élu Oumarou Sissoko Embalo. Après la vraie confirmation de la Commission nationale des élections, qui a confirmé pour 4e fois consécutive l'élection du général Oumarou Sissoko Embalo comme le président de la République de la Guinée-Bissau. Donc Oumarou Sissoko Embalo, c'est le 5e président élu démocratiquement en Guinée-Bissau. La cérémonie aura lieu dans une hôtel de Bissau, à Zamaï. À la cérémonie, nous serons présents les députés et les invités pour l'inauguration de Oumarou Sissoko Embalo.
La Cour suprême s'était prononcée pour demander un recompte des voix. Est-ce que Embalo va prêter serment devant la Cour suprême?
Non, la constitution de la Guinée-Bissau n'est pas pour le prêter serment devant la Cour suprême. C'est pour prêter serment devant les députés de la nation. C'est ça qui dit la constitution de la Guinée-Bissau.
L'autre candidat, Domingo Simoes Pereira, avait saisi la Cour suprême en cas de litige. Et la Cour suprême s'est déjà prononcée et doit se reprononcer dans les 48 heures.
Ce que la Cour suprême a demandé, c'est ça qui s'est mis à faire. Donc pour nous, c'est fini. Le processus électoral est clôturé.
Est-ce que la Guinée-Bissau peut se payer le luxe d'entrer dans une nouvelle crise?
Non, on ne croit pas qu'il y a de crise. Pour nous, le processus électoral est clôturé. Demain, on va prendre le cérémonie. Donc ce sera une nouvelle république de la Guinée-Bissau.
Eh bien, c'était Monsieur Domingo Simoes Pereira, candidat. Pardon, d'abord, je crois que c'était plutôt Monsieur Khalifa Suarez Gassama, qui est directeur de campagne du candidat Oumarou Sissoko Embalo à Bissau. Idriss Fall a aussi recueilli la réaction du candidat Domingo Simoes Pereira du PIGC, qui conteste la victoire de son rival en s'appuyant, lui, sur une décision de la Cour suprême.
Non, il n'y a pas de réponse à quelqu'un qui se propose d'être le premier magistrat d'une nation qui ne reconnaît pas la loi, il ne reconnaît pas les institutions, il ne reconnaît pas l'état de droit. Lorsque on se présente comme un candidat pour être président de la République, le premier désengagement qu'on prend, c'est de reconnaître et de respecter notre loi interne et les dispositifs qui sont constitutionnels.
La commission électorale lui a accordé la victoire, non?
Le procès électoral débute au niveau de la Cour suprême. Il se finit au niveau de la Cour suprême de la justice. La commission nationale électorale, c'est un organe technique, tutelé par l'Assemblée nationale populaire, que dès qu'ils finissent leur travail, s'il n'y a pas de contentieux, oui, mais lorsqu'il y a des contentieux, on revient à la Cour suprême de justice, pour trancher, et c'est sur ça que la Cour suprême de justice a dit clairement qu'on ne peut pas connaître le vainqueur des élections présidentielles du 29 décembre lorsqu'on n'a pas fait le dépouillement national des votes.
La Haute Cour recommande qu'on voit tous les votes au plan national.
Bien sûr. Quand la Cour suprême a pris la première décision, arrêt numéro 1 en 2020, il se posait la question de la commission électorale n'a pas fait le PV national de dépouillement. Sur les 10 régions administratives de la Guinée-Bissau, la commission nationale électorale ne dispose que de 2 PV de dépouillement de résultats. C'est-à-dire, on est en train de mettre en cause le choix que le peuple bissau-guinéen a fait le 29 décembre.
Domingos Simoes Pereira, candidat du PIGC à la présidence de la Guinée-Bissau.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la commission électorale togolaise a proclamé le président sortant Faure Gnassingbé vainqueur de la présidentielle du 22 février avec plus de 72% des voix. L'opposant Agbeyome Kodjo conteste les résultats et appelle à la mobilisation. Le scrutin qui a conduit à la réélection de Faure Gnassingbé pour un 4e mandat s'est déroulé dans le calme. Qu'est-ce qui explique la large victoire du président Faure? La période post-électorale ouvre-t-elle des perspectives de dialogue au Togo? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Les Burundais ont de plus en plus de mal à se prononcer, à se procurer les devises étrangères depuis la fermeture, le mois dernier, des bureaux de change dans leur pays. Une mesure prise par la Banque centrale burundaise pour, dit-elle, freiner la dépréciation de la monnaie nationale, le franc burundais. Conséquence, les biens importés se font rares sur les marchés locaux. Pour un témoignage, Timothée Donangmaï a joint Jacqueline, une habitante de Bujumbura.
Oui, c'est vrai que les bureaux de change ont fermé depuis quelques temps. Le gouvernement a pris cette décision-là. Entre-temps, on a vu que dans certaines banques de Bujumbura, ils ont créé des guichets d'échange pour le dollar et pour l'euro.
Comment ça se passe avec les monnaies de la sous-région?
Les monnaies de la sous-région, jusqu'à présent, on n'a pas de guichet. Ça, c'est clair, on n'a pas de guichet. On présume que ça passe par le marché noir. Parce que, à côté des bureaux de change à Bujumbura, il y avait aussi le marché noir qui existait déjà et qui faisait des échanges pour les monnaies, l'euro, le dollar et les autres monnaies comme le shilling ougandais, tanzanien et kényan. Apparemment, c'est par cette voie-là que se font les échanges.
Alors, comment les gens s'arrangent à obtenir des devises étrangères pour les importations, par exemple?
Dans les importations, on sait déjà que c'était très, très difficile dans les banques. Dans les banques, pour obtenir des dollars pour les gens qui vont faire des achats à l'étranger, pour les importateurs, les entrepreneurs, c'était déjà difficile. On a l'impression que la situation perdure jusqu'à aujourd'hui. La question qui est posée, c'est justement ces échanges entre le Burundi et les pays de la sous-région à travers la monnaie qu'on échangeait entre le franc-bourg et le shilling, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de petits commerçants qui font la navette entre le Burundi et les autres pays de la sous-région qui doivent avoir des problèmes pour pouvoir fonctionner. Quoi.
Que compte faire le gouvernement pour atténuer cette situation?
On attend, hein, on ne sait pas ce qui se passe, mais on pense qu'il y aura aussi des guichets, hein, des guichets bien connus pour les autres monnaies. Ça peut peut-être rendre plus clair un peu la situation.
Jacqueline, une habitante de Bujumbura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, certains acteurs de la société civile ont dénoncé le fait que les pygmées n'aient pas été associés à la mise en œuvre à Sibiti, dans le sud-ouest, d'un programme de développement qui les concerne directement. Il s'agit d'un programme d'amélioration de leurs conditions de vie, financé par les Nations Unies. Reportage de notre correspondant Arsène Séverin.
Soutenu à près de 2 millions de dollars, ce programme lancé dans l'allée Koumou, dans le sud du Congo-Brazzaville, vise l'amélioration des conditions des populations autochtones. La représentante de l'UNICEF, Michaela Marques de Souza, brosse le tableau.
Les populations autochtones constituent le groupe le plus marginalisé au Congo. 65% d'enfants autochtones ne sont pas scolarisés, comparé à 39% au niveau national. La malnutrition chronique des enfants autochtones est de 40%. Plus de 50% d'enfants autochtones n'ont pas d'acte de naissance. Cette réalité explique le choix des populations autochtones comme cible de ce programme.
Le représentant adjoint du programme alimentaire mondial, Ali Ouattara, explique comment surmonter certains défis.
Que la question de scolarisation pose des problèmes. Que les questions d'alimentation scolaire posent des problèmes, nous avons prévu une des interventions qui consiste à mettre en place des cantines scolaires dans certaines écoles. Lorsque les enfants sont parasités et qu'ils consomment, quelle que soit la qualité de l'alimentation, ça ne pourra pas produire les effets escomptés. Avec l'OMS, il y a des questions liées au déparasitage également qui vont intervenir. Il y a des questions liées à la vaccination, à l'accès aux services et aux actes de santé qui sont très limités, notamment dans les zones les plus reculées.
Mais pendant que leur destin se discute dans cette salle climatisée de Sibiti, aucun autochtone n'est présent. Un groupe de Bantous, donc des autres Congolais, les représente. Étonnement de Jean-Claude Bassouamina, directeur départemental de la promotion de la femme.
C'était plus simple de prendre des délégués, ne fût-ce que des délégués, parce que si nous n'arrivons pas à l'autonomisation de ces populations-là, tout le travail que nous faisons, elles seront toujours derrière les Bantous.
Promotrice d'une ONG qui soutient les élèves autochtones, Angèle Malouona Mbembo appelle à plus d'action envers ses enfants.
Il y a déjà 37 qui sont à notre charge. Il y a deux qui sont admis à Mosenjo, à une formation des eaux et forêts. C'est comme ça qu'on se débrouille. On n'a jamais eu un financement.
La ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire, Antoinette Dinganjodo, demande à toute la communauté d'être solidaire avec les populations autochtones. Les populations autochtones représentent plus de 10% de la population congolaise, estimée à plus de 4 millions d'habitants. De retour de Sibiti dans la Likoumou, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Ici aux États-Unis, le FBI tend à se féminiser pour rétablir l'équilibre entre les genres au sein de ses équipes d'agents spéciaux et pour mieux répondre à sa mission de protection des citoyens américains. Nathalie Barge s'est rendue au quartier général du bureau ici même à Washington pour tendre son micro à deux femmes cadres de la fameuse police fédérale, rendue célèbre dans le monde entier à travers d'innombrables productions hollywoodiennes.
En plus d'un siècle d'existence, le FBI n'a jamais été dirigé par une femme. De même que la promotion d'agent spécial sera rarement accordée à une femme, après la première admise à ce titre en 1922, Alaska Davidson. Il faudra attendre plusieurs décennies, notamment 2015, pour que les femmes parviennent à s'imposer en plus grand nombre et occupent des postes à responsabilité. C'est le cas de Jill Tyson, nommée en 2019 directrice adjointe du bureau des affaires du Congrès au FBI.
Mon premier jour de travail, je suis entrée dans cette salle et j'étais la seule femme. J'étais nerveuse, intimidée, car toute nouvelle. Mais j'ai essayé de canaliser cette nervosité pour la transformer en motivation. J'ai le sentiment d'avoir gagné ma place à cette table. Le sentiment que chaque jour, je travaille très dur pour m'assurer d'être à cette table.
En 2019, les femmes représentaient 36% des aspirants au statut d'agent spécial. Au final, elles représentent un cinquième des quelques 13 500 agents du FBI. Les femmes chefs de service et de secteur, qui sont 70, représentaient 24% des cadres supérieurs au 9 janvier 2020. Kerry Farley, chef de section à la division antiterrorisme, est l'une de ces femmes. Pour elle, la question du plafond de verre ne se pose pas.
En fait, ma nouvelle patronne, c'est la première femme directrice adjointe de la lutte contre le terrorisme. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont les femmes excellent au sein du FBI. Les femmes ont certainement la possibilité de réussir à tous les niveaux du FBI.
Le FBI a une soixantaine de bureaux à l'étranger, dont 9 en Afrique, et effectue des opérations avec ses partenaires qui conduisent à des arrestations de masse et démantèlement de réseaux criminels. Les deux agents spéciaux soulignent qu'il est primordial de collaborer dans le monde entier.
Nous avons beaucoup de bureaux en Afrique où notre personnel travaille avec les forces de l'ordre africaines pour prévenir les attaques et résoudre les problèmes locaux. Nous avons des formations inter-États avec plusieurs pays qui viennent ici aux États-Unis dans le cadre de notre école d'entraînement national, l'Académie du FBI à Quantico, en Virginie. Il y a donc beaucoup d'interactions et d'excellentes relations dans la région.
Plus nous aurons de femmes dans le domaine de l'application des lois à travers le monde, plus nous serons efficaces, parce que grâce à cette perspective diversifiée, et en ayant des points de vue féminins et masculins ensemble, nous ferons un meilleur travail pour prévenir et résoudre le crime.
Le 2 juin 1976, Sylvia Elizabeth Matisse est devenue la première femme afro-américaine agent spécial du FBI, qui lui avait alors remis un attaché case, un sac discret et un revolver avec canon retroussé assez court pour tenir dans le petit sac. Comme Alaska Davidson en 1922, Jill Tyson et Kerry Farley de nos jours, Sylvia Matisse a juré de faire preuve de fidélité, bravoure et intégrité, la devise du FBI.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Arnold Woodson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.